Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 22 mars, des promotions pour éviter la liquidation totale. Pour assouplir les nouvelles restrictions, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a proposé ce matin sur RTL aux commerçants de les aider à écouler leurs stocks. Quant à ceux qui sont ouverts ou fermés, on verra que la ligne peut encore bouger. Les masques sont tombés en plein carnaval à Marseille hier. Condamnation unanime de cette manifestation non déclarée, sans geste barrière. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce le symbole d'un problème d'acceptabilité ou juste un coup de chaud ? Nous serons en ligne avec Martine Vassal, la présidente LR de la métropole ex-Marseille-Provence. Dans RTL Midi aussi, quand Ikea espionne ses salariés, le procès vient de s'ouvrir devant le tribunal correctionnel de Versailles. Enfin, nous vous raconterons une belle histoire de solidarité pour sauver le zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire. C'est pas gare aux gorilles, mais vive les gorilles. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Bon, au moins on a les pieds au sec.
Oui, exactement. L'anticyclone est en train de revenir sur la France en ce début de semaine. Alors, il y a un peu de travail, il y a eu de l'humidité, mais c'est vrai qu'on l'a retrouvé déjà ce matin du temps sec. Encore des nuages dans le nord et le nord-est, mais petit à petit, les éclaircies vont se montrer. Ce sera même du grand soleil dans le sud. Encore un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion. En revanche, côté température, c'est toujours pas ça. Après des gelées fréquentes ce matin, on dépassera pas les 7 à 10 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes au nord-est. On est loin du compte. 10 à 13 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 11 à 17 degrés dans la moitié sud. Là aussi, il manque encore 2-3 degrés.
La question du jour sur RTL.fr, le Covid vous fait-il toujours aussi peur? Eh bien, vous êtes 56% à dire oui, à 38% de non. On attend vos témoignages, vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, et évidemment, cette question, nous la posons parce qu'il y a eu ce carnaval non autorisé à Marseille. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? En tout cas, vous pourrez témoigner au 32-10 sur cette question et puis également sur le carnaval. 16 départements vivent depuis ce week-end avec de nouvelles restrictions sanitaires. C'est un peu compliqué, ça ne vous a pas échappé. Sommes-nous en absurdistan, mais l'attestation pour moins de 10 km n'existe plus. Déjà ça, on peut sortir avec un justificatif de domicile. Voici les grands sujets du jour. J'ai envie de dire, c'est un peu un jour sans fin.
C'est ça. Et le Covid vous fait-il toujours aussi peur sur cette question, hein, qui est aussi la question du jour? Eh ben, on va y revenir dans 10 minutes avec vous, Pascal, et aussi avec Marie-Bénédicte Allaire du service politique.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Des patrons et des policiers dans le camp des prévenus. C'est un procès atypique qui s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Versailles. Celui d'anciens dirigeants d'IKEA France, accusés d'avoir espionné des salariés ou encore des candidats à l'embauche via des complicités dans la police. Il y a pas moins de 74 parties civiles, Anne Le Hénaff.
Oui, et donc des avocats partout dans la salle d'audience, en robe noire et en rang serré. Une vingtaine de magasins sont concernés dans toute la France, dont l'IKEA de Rouen. Maître David Verdier défend une trentaine de ses salariés.
Nous avons des mails, nous avons des factures qui ont réglé effectivement cet espionnage quasi industriel des salariés et des représentants du personnel. On a au dossier énormément d'éléments qui démontrent que la direction d'IKEA au plus haut niveau était complètement impliquée dans ce flicage et qui a duré une dizaine d'années. C'est un processus qui a démarré certainement à petite échelle et qui s'est répandu sur tous les magasins en France.
Ce matin, les prévenus ont défilé un par un à la barre, une dizaine de cadres ou d'anciens cadres d'IKEA et quatre policiers donc qui leur ont transmis des informations confidentielles sur des salariés, notamment sur des élus syndicaux, sur des candidats à l'embauche, voire sur des clients. Certaines de leurs vies ont été étudiées à la loupe, leur passé judiciaire, leurs revenus, leur vie de famille. Est-ce que leurs arrêts maladie étaient justifiés? Tout ce système d'espionnage et de fichage auquel IKEA France assure avoir mis fin va être décortiqué, démonté pendant 2 semaines à la barre. Barre devant laquelle trône sur une grande table en bois massif 10 énormes pochettes de carton rouge. Le dossier fait 26 000 pages.
Et dans cette affaire, merci Anne, IKEA France risque jusqu'à 3 750 000 euros d'amende. L'Arc de Triomphe tagué, pillé, des statues défigurées. C'était le 1er décembre 2018 et l'image avait fait le tour du monde. Au final, 10 personnes comparaissent tout à l'heure en correctionnel, pour la plupart des petits casseurs. Freiner sans enfermer, la formule a été inventée par Emmanuel Macron pour justifier de nouvelles mesures de restriction. En gros, c'est chacun chez soi ou encore dehors pour un Français sur trois. On verra dans un instant quels sont les commerces ouverts ou fermés parce que c'est assez ubuesque. Une chose est sûre, les commerces de vêtements et de chaussures ont dû baisser le rideau. Et ce matin sur RTL, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a promis qu'il pourrait pratiquer des promotions en dehors des soldes.
Travaillons sur deux options qui peuvent être complémentaires. D'ailleurs, la liquidation des stocks, qui normalement n'est possible qu'en période de solde. Et puis pour tous ceux pour lesquels l'indemnisation du fonds de solidarité ne serait pas suffisante, même si elle est déjà très généreuse, voir s'il peut y avoir des compensations financières.
Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des soldes au mois d'avril ou mai, par exemple.
Ça voudrait dire que les commerçants pourraient être autorisés à liquider leurs stocks, alors même que nous ne sommes pas en période de soldes.
Bruno Le Maire, qui était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Alors concrètement, Armelle Lévy, est-ce que ça peut suffire ?
Ah non, alors là, c'est même le pompon, selon Franck Boëlly, le président des succursalistes de la chaussure.
Proposer aux commerçants d'alterner les périodes de fermeture et les périodes de promotion, c'est juste envisager la fin du commerce. Et c'est obligatoirement les amener à la ruine. Hein.
Même consternation d'Éric Mertz à la Fédération nationale de l'habillement. Les magasins ont déjà perdu 30% de chiffre d'affaires l'an dernier et 20% au solde d'hiver. Ils n'ont plus de trésorerie et plus l'énergie de se lancer dans une guerre des prix face aux grandes chaînes.
Pour faire vivre une entreprise, d'abord, on a besoin de marge. Et c'est grâce à cette marge qu'on est capable de payer des salaires, de payer les loyers, bref, toutes les charges fixes de l'entreprise. Et aujourd'hui, on me demande de me débarrasser de mon stock en le vendant en perte, c'est-à-dire moins cher que je ne l'ai acheté. Soyons sérieux. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas un modèle économique et social viable. On est en train de tuer les commerçants indépendants.
Non, ce qu'ils demandent au gouvernement, c'est l'autre solution, celle de les indemniser en fonction de leurs excédents de stock dus à la crise sanitaire.
Armelle Lévy. Bruno Le Maire disait aussi ce matin sur RTL qu'il pourrait revoir la fermeture des salons de beauté, comme pour les coiffeurs et les fleuristes. Arnaud Touche, on va essayer de faire le point. Quels sont les commerces à l'heure où on se parle qui ont le droit d'ouvrir ?
Alors déjà, il y a tous les commerces qui étaient ouverts lors des deux derniers confinements. Et vous ajoutez désormais les libraires, les disquaires, les salons de coiffure, les magasins de bricolage, mais seulement inférieurs à 10 000 m2, les magasins de plantes et de fleurs, les chocolatiers, les cordonniers, les concessions automobiles à condition de prendre rendez-vous. Par ailleurs, les visites de biens immobiliers sont également autorisées et les marchés en extérieur restent ouverts. Tout cela concerne évidemment les départements confinés uniquement. Pour les départements non confinés, rien ne change à ce stade.
Bon, et pour ceux qui sont fermés?
Eh bien, tous les commerces considérés comme non essentiels, ce sont ceux qui sont fermés. Ils sont 90 000. Parmi eux, les magasins de vêtements, de jouets par exemple. Ils peuvent faire du click and collect. Mais il y a aussi, vous l'avez rappelé, les salons de beauté et leurs représentants sont furieux. Ils ne comprennent pas pourquoi la coiffure fait par exemple partie des exceptions, mais pas eux. Eh bien, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises doit les recevoir sous peu pour faire remonter leurs inquiétudes au Premier ministre.
Oui, on a senti que ça bougerait certainement pour remercier Arnaud. Le gouvernement mise tout sur la vaccination. D'après les échos, plus d'une centaine de vaccinodromes seront ouverts en avril et pourront traiter chacun 2000 personnes par jour, à condition qu'il y ait des doses et qu'on lève aussi certains doutes. Le laboratoire AstraZeneca affirme ce matin, après de nouveaux essais cliniques menés aux États-Unis, que son vaccin est efficace à 80% chez les personnes âgées et qu'il n'augmente pas les risques de caillots sanguins. Une grève qui rappelle le monde d'avant, celle des contrôleurs Sudrail du Nord-Pas-de-Calais. Ils dénoncent des problèmes d'effectifs et de management. Résultat, moins d'un TER sur deux circule en ce moment dans le département. Et puis, vous l'avez noté, parce qu'on vous l'a déjà dit ce matin, à Lille, pas de bus aujourd'hui à la suite d'une agression. Dans un instant, on revient sur ce carnaval non déclaré à Marseille et aussi non masqué.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Carnaval ou cluster, c'est le titre qui barre la une de la Provence ce matin après cette étrange balle surtout pas masquée dans les rues de Marseille hier après-midi. Jusqu'à 6500 personnes, 9 personnes ont été arrêtées, des dizaines d'autres verbalisées, d'autant que le carnaval n'avait pas été déclaré. Le maire Benoît Payan s'indigne sur Twitter. Rien ne justifie, écrit-il, qu'on détruise les efforts collectifs pour endiguer le virus. Alors Étienne Baudu, on aimerait savoir tout simplement comment en est-on arrivé là.
Eh bien écoutez, la question est de savoir si les autorités n'ont pas été dépassées quand même par l'ampleur de ce carnaval. Vous le disiez, 6500 participants qui ont déambulé dans les rues jusque sur le bas de la Canebière. Pourtant, ce défilé, même s'il n'était pas déclaré, était annoncé. La préfète de police explique que les forces de l'ordre n'ont pas voulu intervenir, trop risqué avec des enfants dans le cortège. En revanche, dès que les conditions ont été réunies en fin d'après-midi, les policiers ont pu disperser les derniers carnavaliers. 9 interpellations, plusieurs gardes à vue et des verbalisations pour non-port du masque. Alors ce carnaval, indépendant de la plaine de Noailles et des réformés est bien connu. Il fêtait hier sa 21e édition. L'an passé, il avait été annulé à cause du confinement. Cette année, pour les organisateurs, pas question de report. Et comme toujours, il n'avait pas été déclaré. C'est un principe pour eux. Seul entorse, il était programmé en journée pour respecter, dit-on, le couvre-feu. C'est un collectif d'associations qui organise ce carnaval dans un quartier un peu rebelle et libertaire, proche du centre-ville. Et le mot d'ordre est clair. Sur sa page Facebook, il revendique la liberté de s'exprimer, de s'amuser, d'exister dans l'espace public sans dépenser beaucoup d'argent. état d'urgence ou non, on va dire que personne ne pouvait ignorer qu'il allait, malgré la situation sanitaire, se dérouler cette année.
Merci Étienne Bauduet. Nous sommes avec Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente LR, je précise. Bonjour.
Bonjour.
Ce carnaval hier, au fond, c'est le symbole d'un ras-le-bol ou c'est une provocation ?
Non, je pense que c'est plutôt une provocation parce que, comme vous l'avez constaté, il y a eu énormément de casses des jeux d'enfants, de panneaux publicitaires, de poubelles enterrées, de bornes, des feux qui ont lieu jusque même au-delà du périmètre du carnaval habituel. Parce que, effectivement, c'est un carnaval qui se tient chaque année sur un quartier assez réduit, sur lequel il y a toujours un peu de débordement. Mais là, cette fois-ci, c'est plus un carnaval, c'est une manifestation politique et c'est surtout devenu un cluster politique.
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une manifestation politique ? On disait que c'était, Étienne Baudu disait à l'instant, c'est un quartier libertaire, un quartier rebelle, mais ça a été fomenté, entre guillemets, par des politiques, organisé par des politiques. Vous accusez qui ?
Bien, tout d'abord parce qu'il y a des effigies qui ont été brûlées, parce qu'il y a des tags injurieux qui sont sur les différents murs, et puis il y a également des manifestations qui ont commencé dès le vendredi, puisque dès le vendredi, certaines personnes ont détérioré des panneaux publicitaires qui étaient axés sur la publicité, sur la sécurité, sur la vidéoprotection, sur les soutiens aux forces de l'ordre. Et donc là, même là, ce qui m'avait un peu surpris, c'est que la gauche marseillaise aussi avait soutenu ces actions-là aussi. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous avons les réas qui sont pleines, les soignants qui risquent leur vie tous les jours, les commerçants qui sont fermés et qui dorment dans leur commerce parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs charges. Donc là, on se retrouve avec des militants d'extrême gauche qui font des manifestations politiques.
Donc vous avez l'intention de porter plainte contre qui ? Contre des militants d'extrême gauche ?
Contre notre, oui, bien sûr, à la fois contre IS et contre les personnes qui ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en garde à vue. J'espère que derrière, il y aura des poursuites judiciaires qui seront engagées parce que c'est inacceptable de brûler des biens publics sous prétexte de manifestations politiques. Il y a une difficulté à Marseille. C'est que la gauche marseillaise, qui est aujourd'hui en responsabilité, a été élue grâce en utilisant ces collectifs d'extrême gauche. Et maintenant, ils sont débordés par ces collectifs d'extrême gauche. Donc, le problème, c'est de savoir où est-ce que ça va s'arrêter. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que présidente d'institution, je vais déposer plainte sur les dégradations des biens publics.
Vous pensez que si vous aviez été maire de Marseille, vous auriez pu l'empêcher ?
Vous savez, avec des si, on pourrait faire beaucoup de choses.
Ouais.
Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas utilisé l'extrême gauche ni les collectifs pour me faire élire.
Donc pour vous, les autorités ont été dépassées. Est-ce qu'il y a eu un problème aussi avec les forces de l'ordre qui ne sont intervenues qu'à 18h ? C'était trop tard à votre avis ?
Les forces de l'ordre ont intervenu quand elles devaient intervenir. Vous avez en début de manifestation des familles avec des enfants au milieu de groupuscules qui ont mis le feu de partout. Donc c'était extrêmement compliqué de pouvoir trier les enfants d'un côté, les familles de l'autre, les manifestants d'un autre côté. Donc lorsque les familles ont pu se disperser, à ce moment-là, la police est intervenue, comme elle le fait d'ailleurs malheureusement régulièrement avant les périodes de confinement sur toutes les manifestations des Gilets jaunes dans ce secteur. Là où l'extrême gauche joue au chat et à la souris avec les forces de police. Donc là, on se retrouve dans un climat insurrectionnel qui est tout à fait scandaleux. Mais c'est vrai que quand on attise le feu, après, eh bien, on récolte la tempête.
Et on entend bien que vous accusez clairement l'extrême gauche d'être à l'origine de ce carnaval. Merci beaucoup Martine Vassal, présidente LR de la métropole Aix-Marseille-Provence et aussi du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Revenons sur notre question du jour sur RTL.fr. Le Covid vous fait est-il toujours aussi peur ? Il y a eu Marseille, on en parlait à l'instant, mais aussi à Annecy, 1 millier de personnes rassemblées sans masque hier pour réclamer un allègement des mesures sanitaires. Pascal Pro, vous êtes revenu avec nous. Au fond, c'est la question de l'acceptabilité ?
Évidemment, parce que la Covid fait-elle peur ? Manifestement, elle ne fait plus peur à certaines personnes, et notamment les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, ils se rendent compte, ils devinent que, a priori, statistiquement, ils ne sont pas en danger. Bon, ils n'ont pas de comorbidité et ils ont un âge qui les préserve. Alors effectivement, ils n'acceptent pas. Et on n'a pas besoin d'avoir ou de sondages précis pour savoir qu'autour de nous, les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Le vendredi soir, le samedi soir, ben ils sortent.
On va quand même regarder d'un petit peu plus près les sondages avec Marie-Bénédicte Allaire qui nous a rejoint dans ce studio. Comment les Français acceptent-ils encore les mesures sanitaires aujourd'hui?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une lassitude et que cette lassitude, elle va de pair avec la baisse de confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre la crise sanitaire. Et ça, les différentes enquêtes d'opinion le mesurent. Il y a par exemple un outil qu'utilise le gouvernement lui-même, c'est le service d'information du gouvernement qui dispose d'un indice qui lui fait remonter le taux d'inquiétude des Français. Et c'est vrai que la semaine dernière, ce taux d'inquiétude, il était mesuré à 51%, alors que la fois précédente, il était à 58%. C'est quand même une baisse notable. Ça montre bien que les Français sont moins inquiets de la diffusion du virus.
Et parmi eux, les jeunes ?
Les jeunes sont peut-être moins inquiets parce qu'effectivement, ils sont moins concernés par la contamination. En même temps, ils peuvent être inquiets aussi pour leurs parents ou pour leurs grands-parents. Par contre, effectivement, quand on regarde les enquêtes d'opinion qui montrent le taux d'acceptabilité, le niveau d'acceptabilité, c'est vrai que c'est chez les jeunes qu'on est plus enclin à aller vers une transgression de ces mesures.
Mais c'est ça qui est terrible, parce que ce sont les jeunes qui transmettent le virus, et c'est ceux qui, effectivement, se croient le plus protégés. Alors, même effectivement, s'ils ont peur pour leurs parents ou leurs grands-parents, et c'est eux qui en ont le plus ras-le-bol, et c'est eux qui ont le plus d'interactions. Par définition, parce que quand tu as 50 ans, tu vois moins de gens que lorsque tu en as 20. Donc on est au cœur d'un problème où eux l'acceptent le moins. Ils n'en peuvent plus.
Mais justement, l'état psychologique des Français, c'est quelque chose qui inquiète énormément l'exécutif.
Oui, oui, ça inquiète l'exécutif. Ça fait un moment qu'il le dit. Mais par exemple, cet après-midi, il y a une réunion à Matignon autour du Premier ministre avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur effectivement l'état psychologique des Français. C'est un peu inhabituel qu'un gouvernement se préoccupe à ce point de l'état psychologique des Français. Mais c'est aussi parce que la crise est inhabituelle et génère effectivement cette lassitude et cette déprime dont on parle assez souvent.
Et vous prendrez le pouls des Français tout à l'heure à 13h sur ce thème-là.
Exactement, 13h-14h30, ce sera une des questions du jour, bien évidemment, l'acceptabilité.
Dans ce contexte, l'édition 2021 du Paris-Roubaix est menacée. L'an dernier, l'épreuve mythique de l'enfer du Nord avait finalement été annulée. Pour l'instant, le préfet des Hauts-de-France annonce que la course qui doit avoir lieu le 11 avril pourrait être reportée. On fait une pause et dans un instant, quand l'ambassade de Chine injurie un chercheur français.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Se faire traiter de petite frappe ou de hyène folle sur Twitter, c'est devenu finalement assez banal. Et c'est ce qui est arrivé à Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Mais ces insultes si peu diplomatiques viennent de l'ambassade de Chine en France. Brice Dugénie, pourquoi ce courroux ?
Alors le point de départ, c'est une divergence de point de vue entre le chercheur français et les autorités chinoises au sujet de Taïwan. Vous savez, dossier épineux. Loin des règles diplomatiques, l'ambassadeur chinois très agacé traite alors Antoine Bondaz de hyène, de petite frappe, directement sur les réseaux sociaux ou encore dans un communiqué. Une campagne orchestrée par Pékin, selon le chercheur.
Très clairement, l'objectif des diplomates chinois est de mieux contrôler la communication, y compris à l'étranger, en essayant soit d'imposer ces éléments de langage, soit d'intimider certains chercheurs, mais aussi certains journalistes et certains élus sur les questions chinoises.
Et selon lui, la France ne réagit pas suffisamment fort pour enrayer ce phénomène.
Tant que vous n'aurez pas, entre guillemets, du répondant côté français, que ce soit de la société civile, mais aussi des autorités, l'ambassade de Chine continuera. Et c'est là où on voit la différence peut-être avec d'autres pays, le Canada, évidemment les États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon. Il y a des mises en garde beaucoup plus fermes sur ce qui est acceptable ou non de la part de diplomates étrangers sur le territoire national.
À court terme, Antoine Bondaz le sait, il ne pourra pas remettre les pieds sur le sol chinois.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Partons au zoo, celui de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire, connu notamment pour ses gorilles, et qui se retrouve en grande difficulté financière puisque le parc est fermé depuis le mois d'octobre. Mais les habitants de toute la vallée ont lancé une cagnotte pour sauver le zoo et elle dépasse déjà les 13 000 euros, Raphaël Vantard.
Ouais, ça permet de couvrir les coûts de fonctionnement du parc pour 3 jours et c'est déjà ça pour ce zoo fermé au public depuis des mois. Mais les animaux, eux, continuent à vivre. Il faut donc s'en occuper, les soigner, les câliner même pour les gorilles. Tristes de ne pas pouvoir s'amuser au concours de grimaces avec les visiteurs. Au départ, c'est une habituée du zoo qui a lancé la cagnotte. Elle ne connaît pas les propriétaires, mais elle lance une souscription sur Internet. Les montants grimpent chaque jour et vous allez l'entendre, ça bouleverse le fondateur du parc, Pierre Tivillon.
J'ai 50 ans de zoo, c'est la première fois que nous avons autant de gens qui sont derrière nous qui téléphonent, qui écrivent, qui ont envie de revenir et tout, et qui répondent favorablement à une demande d'aide. Une demande d'aide que nous n'aurions jamais fait, nous, personnellement. Bon, ben, c'est extraordinaire et nous sommes très, très, très heureux et touchés par cela. Merci à tous.
Le parc est sur le qui-vive pour une éventuelle réouverture. Il y a un grand parcours à l'extérieur avec de larges allées et ça devient au fil des jours de plus en plus vital pour la survie économique de ce zoo et ses vedettes gorilles de Haute-Loire.
Et c'est une belle histoire de solidarité que vous nous avez racontée. Merci Raphaël. Enfin, un grand ouf de soulagement. Un gros astéroïde de 900 mètres de diamètre a frôlé la Terre hier. Frôlé, c'est-à-dire qu'il est passé à 2 millions de kilomètres de nous, soit 5 fois la distance Terre-Lune, mais la NASA le considérait comme potentiellement dangereux. Il fait quand même à 124 000 km/h. Et re-ouf, d'après les prévisions de la NASA, dans l'avenir, il n'y a aucun risque de collision au cours de ce siècle. Voilà, on peut se rendormir et s'occuper du Covid. Pascal, donc.
Écoutez, le Covid, on va en parler et en parler encore, mais c'est vrai que êtes-vous totalement indifférent aux restrictions sanitaires? Est-ce que vous les respectez ou pas? On a beaucoup parlé de l'acceptabilité depuis le début de l'émission. On parlera de ce qui s'est passé à Marseille et ça vous fera réagir. L'autre sujet, évidemment, qui a fait réagir tout le week-end, c'est cette affaire administrative d'attestation. Je ne sais pas, par exemple, si vous savez, Louis, si vous avez besoin d'une attestation ou pas.
Non, j'avoue que...
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent...
Si je vais loin, je sais que j'en ai besoin.
Vous n'allez pas loin d'abord. Ça vous apprendra, parce que vous n'irez pas à plus de 30 km. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, qu'il n'y a plus d'attestation. Non, il y en a quand même une, mais au-dessus de 10 km. Mais en revanche...
Et en dessous, justification de domicile. Si j'ai bien compris.
Uniquement justification de domicile. Donc
qui
c'est
n'est
vrai
pas
que...
forcément une carte d'identité. Enfin bon, c'est compliqué.
Ah ben non, carte d'identité, non, parce que le domicile de ta carte d'identité, si t'es étudiant par exemple à Marseille, que t'es domicilié, vous m'avez compris.
J'ai bien compris que j'ai pas compris. Bon. C'est pas grave.
Ça... À tout de suite alors.
Allez, à tout de suite.
C'est un peu l'histoire de ma vie.
Louis Baudin, la fraîcheur est tenace, dites-moi.
Eh oui, exactement. Hein. Même si l'anticyclone s'installe en ce début de semaine, c'est vrai que le froid résiste encore. Pourquoi? Parce qu'on a du très grand froid encore en Europe de l'Est. Hein. Ça n'a pas dégelé, par exemple, du week-end en Pologne ou encore sur une grande partie de la Russie. Et cet air froid déborde encore en partie sur la France. Résultat, dégelé ce matin et cet après-midi. Des températures qui ne dépasseront pas les 7 à 10 degrés dans le nord-est, 10 à 13 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 11 à 17 degrés dans le sud. Il manque encore 3-4 degrés pour être dans les valeurs de saison. Et pourtant, petit à petit, le soleil revient. Alors déjà très généreux près de l'Atlantique dans le sud. Il y aura encore des nuages dans l'extrême nord et dans le nord-est. Mais là aussi, petit à petit, on devrait retrouver quelques éclaircies.
Et demain, vous nous remettez la lumière?
Voilà, l'anticyclone, là, aura dissipé une bonne partie de l'humidité. Donc le matin, il restera quelques brumes, brouillards autour de la vallée de la Saône, près de la Manche, encore dans le nord-est, mais au fil des heures, eh bien, c'est bien le soleil qui s'imposera très largement, notamment l'après-midi. Peut-être quelques nuages près des frontières du nord-est et c'est tout. Et avec ce soleil, encore du froid le matin, encore des gelées très fréquentes. L'après-midi, allez, on gagnera 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui, 12 à 15 degrés dans la moitié nord et 14 à 17 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis pour ces bonnes nouvelles.
Retrouvez le plaisir de vous occuper de votre jardin avec la nouvelle technologie à batterie e-power des tondeuses et outils Stiga. Stiga, le partenaire de votre jardin.
Bon appétit si vous êtes à table. Dans un instant, il va être 13h.